Bonjour frères et sœurs, je vous souhaite un très bon sabbat. L'ingratitude attire les reproches comme la reconnaissance attire de nouveaux bienfaits. Madame de Salimi. L'ingratitude attire les reproches comme la reconnaissance attire de nouveaux bienfaits. Ensuite, j'ai une citation que je trouve très intéressante, de la part de René Descartes. L'ingratitude est un composé d'égoïsme, d'orgueil et de stupidité. La part de René Descartes. C'est une réflexion que ça vaut la peine d'approfondir. L'ingratitude est un composé d'égoïsme, d'orgueil et de stupidité. J'ai relevé plusieurs articles sur les bienfaits de la gratitude et d'autres aspects aussi. Et j'ai voulu vous lire ceci. Des recherches ont montré que la gratitude augmentait le bonheur, mais qu'elle a aussi des bienfaits physiques. Ainsi, la gratitude améliorait le système immunitaire. Il a été montré que ressentir l'énergie de la gratitude pendant 15 à 20 minutes par jour, pendant 4 jours, envoyait un signal aux gènes de cellules immunitaires qui se mettait à produire une protéine appelée immunoglobuline A. La gratitude aide également à faire baisser l'hormone du stress, le cortisol. Elle peut aussi augmenter le bien-être et la santé mentale, car elle permet la libération de neuromédiateurs. La gratitude aiderait à réduire les facteurs inflammatoires impliqués dans les maladies chroniques. Elle améliorerait également la santé cardiaque. De façon globale, cultiver une attitude de gratitude est corrélée à un meilleur équilibre hormonal, à une meilleure fonction immunitaire, à une meilleure capacité de relaxation. La gratitude est bon pour la santé. C'est ce qu'affirme une large étude américaine. Elle a comparé l'état d'esprit à l'état de santé journalière de près de 5000 volontaires. Il mentionne que la pratique de la gratitude peut avoir un impact positif sur la santé mentale et physique. Il parle de produire des hormones de bonheur, cela c'est un peu plus technique. Il y a un autre article qui parle de deux chercheurs. D'après les chercheurs Stephen M. Yoshimura et Cassandra Berzin, il existe bel et bien un lien entre l'expression de la gratitude et le bien-être psychologique et physique. Pour les chercheurs, la gratitude est associée de manière constante à de nombreux états sociaux, psychologiques et physiques positifs, tels qu'une tendance accrue à aider les autres, l'optimisme, l'exercice physique et une réduction des problèmes physiques. Ça, c'est le côté séculaire déjà, et nous, dans l'Église, la gratitude est quelque chose qu'on devrait exprimer d'abord vis-à-vis de Dieu. Ça commence avec Dieu parce que Dieu nous a donné. Dieu nous a tout donné. Dieu nous a donné la possibilité de travailler, de gagner notre vie. Tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous l'a donné. Et il continue à nous donner jour après jour avec abondance, avec une grande générosité. Idéalement, il nous faut voir et reconnaître la main de Dieu dans notre vie quotidienne. Voir les sentiers que Dieu a aplanis pour nous. J'ai cette citation, je ne vais pas m'y rapporter. Elle se trouve dans 1 Timothée chapitre 6 et le verset 17. 1 Timothée chapitre 6 et le verset 17. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance, Dieu donc, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Puis il y a le psaume, chapitre 33 et le verset 5. Psaume 33 et le verset 5. En parlant de Dieu, il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Nous regardons autour de nous et nous voyons la création de Dieu. Nous voyons tout ce que Dieu a donné à l'homme et à nous individuellement. La bonté de l'Éternel effectivement remplit la terre. Quand nous regardons les premiers chapitres de Lévitique, nous voyons un certain nombre de sacrifices qui sont mentionnés que l'ancien Israël effectuait à l'époque. Il y a les sacrifices de l'Holocauste déjà, il y a les offrandes, il y a les sacrifices d'expiation, les sacrifices de culpabilité, quelqu'un qui péchait involontairement. Et dans le chapitre 3, nous avons les sacrifices d'action de grâce. Je ne vais pas regarder cela. Je vais regarder Lévitique, chapitre 7 et le verset 11. Il s'agit ici d'une offrande volontaire. Lévitique, chapitre 7 et le verset 11. Et nous allons voir le cœur ici à côté de l'aspect pratique, l'aspect physique. Verset 11. C'est le côté pratique, si je puis dire. Verset 11. Voici la loi du sacrifice d'action de grâce qu'on offrira à l'Éternel si quelqu'un l'offre par reconnaissance. On est d'abord reconnaissant envers Dieu, et parce qu'on est reconnaissant envers Dieu, on le montre à Dieu. On fait quelque chose, on offre un sacrifice d'action de grâce. Si quelqu'un l'offre par reconnaissance, il offrira avec le sacrifice d'action de grâce des gâteaux sans levain, pétris à l'huile, des galettes sans levain arrosées d'huile et des gâteaux de fleurs de farine frites et pétris à l'huile. C'est des volontaires, mais cela montre son importance pour que ce soit mentionné dans le premier chapitre de Lévitique. On voit ici que la gratitude est exprimée. Et ce dont j'ai voulu vous parler aujourd'hui, c'est la prière, c'est le titre de ce sermon, la prière de gratitude. La prière de gratitude. Et on voit à quel point certains hommes de Dieu ont montré leur gratitude à Dieu. Nous allons commencer, si vous le voulez bien, avec le psaume 50. Il y a toujours le danger, c'était vrai pour Israël, et cela peut être vrai pour nous, que les choses deviennent routinières, que cela le devient jusqu'à un certain point. Psaume 50, à la fin du verset 7. Dieu fait un reproche ici. Psaume 50, à la fin du verset 7. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas un taureau dans ta maison, ni des boucs dans tes bergeries, car tous les animaux des forêts sont à moi. Dieu met le tout en perspective. On peut faire, bien sûr, les choses d'une façon rituelle, mais Dieu veut une relation vivante avec lui. Dieu veut que cela vienne du cœur. Verset 14. Offre pour sacrifice à Dieu, et c'est ça qui est important, que Dieu veut. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce, et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. C'est ce que Dieu recherche aussi chez nous, le sacrifice d'action de grâce. Et nous allons voir un homme de Dieu qui était très pieux, qui avait la foi, qui travaillait beaucoup. Les hommes travaillaient à ce moment-là, depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Vous trouvez ça dans Néhémie chapitre 4, en construisant le mur et en rebaptisant la muraille de Jérusalem. Comme j'ai dit, un homme très pieux. La muraille était rebâtie, ils étaient méprisés, ils étaient persécutés, il y avait des rumeurs. Ils ont réussi à construire, à reconstruire la muraille en l'espace de 52 jours. Et nous allons voir une particularité de Néhémie. Donc, je vous parle de Néhémie. Néhémie, chapitre 11, et le verset 17. Néhémie, chapitre 11, et le verset 17. Je vais vous lire ça dans la version de Jérusalem. Matania, fils de Mika, fils de Zabdi, fils d'Azaph, qui dirigeait les hymnes, entonnait l'action de grâce pour la prière. Ils avaient été persécutés, ils avaient beaucoup souffert, et vous imaginez, quand le tout est terminé, à quel point ils étaient reconnaissants. À quel point ils étaient reconnaissants envers Dieu, que Dieu leur a permis de finir ce travail. Malgré la persécution, malgré les attaques, verbales tout au moins. Néhémie chapitre 12 et le verset 24. Néhémie chapitre 12 et le verset 24. Nous allons voir dans chapitre 12 quelque chose qui remonte à une époque antérieure. Verset 24. Et je vais vous lire cela dans la version Darby. Et les chefs de Lévi, Hachabia, Sherabia et Jésua, fils de Katmiel, et leurs frères, vis-à-vis d'eux, pour louer et pour rendre grâce selon le commandement de David, homme de Dieu. Les uns en fonction à côté des autres. Verset 46. Toujours le chapitre 12 et le verset 46. Nous allons peut-être commencer avec le verset 45. Les Lévites étaient à leur poste, observant tout ce qui concernait le service de Dieu et des purifications. Les chantres et les portiers remplissaient aussi leurs fonctions selon l'ordre de David, selon l'ordre de David et de Salomon, son fils. C'est donc quelque chose qui était antérieur, quelque chose qui avait été institué et pratiqué avant, selon l'ordre de David et de Salomon, son fils. Car autrefois, du temps de David et d'Asaph, il y avait des chefs de chant et des chants de louange et d'action de grâce en l'honneur de Dieu. J'ai parlé tout à l'heure, au début du sermon, des bienfaits de montrer la gratitude, d'exprimer la gratitude. Et bien sûr, la gratitude, c'est quelque chose qui devrait d'abord aller vers Dieu, avant d'aller vers les autres, bien sûr. C'est Dieu qui nous a tout donné, et nous allons voir ceci, puisque ça venait de David. C'était institué par David. Et ce que nous pouvons voir dans 1 Chronique chapitre 16, 1 Chronique chapitre 16, nous allons commencer à lire à partir du chapitre 16, 1 Chronique chapitre 16 et le verset 1. Chapitre 16 et le verset 1. Après qu'on eut amené l'arche de Dieu, on la plaça au milieu de la tente que David avait dressée pour elle, offrit devant Dieu des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Parce qu'il était reconnaissant de pouvoir emmener l'arche de Dieu, il débordait de reconnaissance. Verset 2. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel. Puis il distribua à tous ceux d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Je dirais que pour un roi, ce n'est pas un grand cadeau. Si, parce que quand vous avez des millions de personnes à qui vous donnez un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin, cela vous fait beaucoup, beaucoup. Et là, on voit justement le lien de nouveau entre le fait d'offrir le sacrifice de grâce, les actions de grâce et la générosité. Ce que nous avons vu au début du sermon. Il y a un lien entre les deux. Quelqu'un qui exprime la gratitude, c'est quelqu'un qui, logiquement, va être plus généreux. Verset 4. Il y a des Lévites de charge de faire le service devant l'arche de l'Éternel, d'invoquer, de louer et de célébrer l'Éternel, le Dieu d'Israël. Verset 7. Le verset 7, je vais vous le lire dans le rabbinat. C'est ce jour-là que David confia la direction des chants de grâce à l'Éternel, le chant de grâce à l'Éternel, à Asaph et à ses frères. Verset 8. Je change de version. Version de Jérusalem. Rendez grâce à Yahweh. Rendez grâce à Yahweh, verset 9. Je reviens à la version seconde. Chantez, chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Parlez de toutes ses merveilles parce que Dieu est généreux, parce que Dieu fait des merveilles, et c'est la raison même pour laquelle nous pouvons remercier Dieu et exprimer notre gratitude envers lui. Verset 34. Verset 34, je reviens à la version de Jérusalem. Rendez grâce à Yahvé, car il est bon, car éternel est son amour. Rendez grâce à Yahvé, car il est bon, car éternel est son amour. Verset 35. Dites, sauve-nous, Dieu de notre salut, rassemble-nous, retire-nous du milieu des païens, que nous rendions grâce à ton saint nom et nous félicitions en ta louange. Donc David avait institué ses actions de grâce parce qu'il était très reconnaissant à l'égard de Dieu. Et parce qu'il était reconnaissant, parce qu'il était entier, il exprimait cette reconnaissance. Et ce que nous trouvons justement dans 1 Chronique chapitre 29, est une illustration de ce que David avait dans le cœur, de ce qu'il pratiquait, de ce qu'il avait l'habitude de faire, et ici on le voit très clairement. Dans 1 Chronique chapitre 29. Comme j'ai dit, David était très très entier dans sa façon d'être. Il débordait de reconnaissance, et en plus il exprimait sa reconnaissance. Verset 13. 1 Chronique chapitre 29, donc le verset 13. Nous allons commencer dans le verset 10, si vous voulez bien, pour situer le contexte. Verset 10. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit, « Béni sois-tu d'éternité en éternité, Éternel Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence. » Il voyait qui était Dieu. Il se rendait compte à quel point Dieu était grand et magnifique. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, la reine, car tu te lèves souverainement au-dessus de tout. Dieu a la haute main sur tout. Dieu peut changer les événements quand il veut. Verset 12. C'est de toi qui viennent les richesses et la gloire, car c'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. C'est vrai même dans nos vies individuelles. Dieu peut intervenir quand il veut. Verset 13. Le mot dans le second, c'est maintenant. Nous allons lire ce verset dans le rabbinat où c'est marqué aussi. Aussi parce que Dieu est Dieu. Parce que Dieu est tout puissant, parce qu'il a dans ses mains toute la puissance. Donc la version rabbinat, aussi à cette heure, te rendons-nous grâce et célébrons-nous ton nom glorieux. Ce n'est peut-être pas un français que nous utiliserons de nos jours, mais ça donne le sens. Aussi à cette heure, te rendons-nous grâce et célébrons-nous ton nom glorieux. Verset 14, je reviens à la version seconde. Car qui suis-je et qui est mon peuple que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tu viens de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Il exprimait sa reconnaissance, il exprimait sa gratitude. Tout ce que nous avons, notre pain quotidien, vient de Dieu. Notre pain quotidien vient de Dieu. C'est quelque chose dont il convient de remercier Dieu, que nous avons notre pain quotidien. Dieu pourvoit à nos besoins de tous les jours. Bien sûr, notre reconnaissance, notre gratitude à l'égard de Dieu va s'exprimer par les gestes. Verset 9. Le peuple était aussi dans cette attitude, si je puis dire. Un chronique, donc toujours chapitre 29 et le verset 9. Le peuple se réjouit de leurs offrandes volontaires. Il se réjouit de leurs offrandes volontaires car c'était avec un cœur bien disposé qu'il les faisait à l'Éternel. Et le roi David en eut aussi une grande joie. Il est possible, j'imagine, d'être reconnaissant sans exprimer notre gratitude, mais Dieu veut qu'on exprime notre gratitude. C'est important pour Dieu de l'exprimer. J'ai relevé ceci. Il s'agit du travail dans les entreprises, mais c'est le même principe. J'ai relevé ceci, et je cite, « La question de la reconnaissance est centrale. Évidemment, il faut exprimer cette reconnaissance. La question de la reconnaissance est centrale aussi bien pour les individus que pour les entreprises. Elle est un levier fort de l'engagement au travail. Le défaut de reconnaissance des contributions de chacun ou le déni des difficultés rencontrées sont autant de causes de démobilisation, de mal-être et de contre-performance productive. » Je trouve cette phrase très intéressante parce que même au sein de l'entreprise, la reconnaissance fonctionne, change les choses, fait une différence. Et le manque de reconnaissance aussi a des conséquences néfastes au sein de l'entreprise, des entreprises. Donc même sur un plan humain, c'est vrai. La reconnaissance, le fait d'exprimer la gratitude, réchauffe les relations entre les êtres humains. Bien sûr, quand nous exprimons notre gratitude envers Dieu, nous avons un meilleur contact avec Dieu. Je n'ai pas le chiffre précis en tête, mais M. Armstrong, nous allons résumer le tout de cette façon. M. Armstrong, quand il parlait de la prière, disait que quand on parlait à Dieu, il fallait utiliser une bonne partie de sa prière. Une bonne partie de sa prière devrait être sur le fait de remercier Dieu, de montrer notre gratitude à Dieu. Je pense que le pourcentage était assez élevé, mais je ne veux pas vous dire une bêtise. Donc je résume le tout de cette façon. Qu'une bonne partie de nos prières devrait être le fait de remercier Dieu. Quand nous prions, nous devrions remercier Dieu. Nous avons bien sûr des demandes que nous effectuons à Dieu. L'idéal, c'est que nous louons Dieu, nous remercions Dieu, nous montrons notre reconnaissance, nous exprimons notre gratitude et ensuite, nous demandons pour les autres et nous terminons avec des demandes personnelles. Mais c'est important que nos prières soient aussi structurées et nous pouvons bien sûr aussi exprimer notre gratitude en chantant des louanges à Dieu. Certains psaumes sont, pour ainsi dire, des sortes de prières de gratitude. Psaume 103 et le verset 1. Psaume 103 et le verset 1. De David, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Verset 2. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est la raison pour laquelle David s'exprimait de cette façon, parce que Dieu donnait beaucoup de bienfaits. Et il en était conscient. Verset 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Je pense que si nous sommes suffisamment proches de Dieu, nous allons voir la bonté et la miséricorde de Dieu dans notre vie. Nous avons toutes les raisons du monde d'être reconnaissants envers Dieu, d'exprimer de la gratitude. On peut faire sa propre liste, la liste est interminable. Le fait même d'être en vie, le fait que Dieu nous promet la vie éternelle si nous tenons bon, si nous allons jusqu'au bout, la vie éternelle dépasse notre imagination. Le fait que nous avons un travail, que nous avons de quoi manger, que nous avons un logement, que nous avons un toit au-dessus de nos têtes, que nous avons des frères et des sœurs dans la foi. Nous pouvons faire notre propre liste. Nous pouvons voir tout ce que Dieu nous donne, les bénédictions physiques et les bénédictions spirituelles. Nous avons la liberté de pratiquer notre religion. Toutes sortes de bénédictions. Psaume chapitre 100. Psaume chapitre 100, je vous ai dit que j'allais employer plusieurs versions aujourd'hui. Je vais vous lire ce psaume dans la version synodale. Parce que le psaume 100 décrit l'attitude convenable quand nous prions Dieu. L'attitude qui convient quand nous prions Dieu. Dans la synodale, c'est marqué déjà au début du psaume, avec le verset 1, déjà, psaume d'action de grâce. Psaume d'action de grâce. Vous tous, habitants de la terre, et par la suite, cela va se réaliser pleinement dans le millénium. Vous tous, habitants de la terre, faites monter vos cris d'allégresse jusqu'à l'Éternel. Vos cris d'allégresse. C'est quelque chose qui vient du cœur, quelque chose qui est profonde, quelque chose qui est intense. Faites monter vos cris d'allégresse jusqu'à l'Éternel. Servez l'Éternel avec joie. Et la joie, c'est quelque chose qui aura lieu dans le millénium. Ce sera le mot d'ordre, si vous voulez. Servez l'Éternel avec joie. Paraissez devant lui avec des cris d'allégresse. Verset 3. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a créés. C'est déjà un premier point important. C'est le fait que Dieu nous a créés. Nous sommes en vie. C'est lui qui nous a créés. Nous sommes à lui. Nous sommes son peuple et le troupeau dont il est le berger. Entrez dans son temple avec des actions de grâce. Comment est-ce qu'on rend un culte à Dieu? Comment est-ce qu'on s'approche de Dieu? Entrer dans son temple avec des actions de grâce. Cela doit faire partie de la recette, si je puis dire. Entrer dans son temple avec des actions de grâce. Dans ses parvis avec la louange. Les deux sont importants. La louange et les actions de grâce. Les deux sont importants quand nous prions. De commencer à prier en louant Dieu, en remerciant Dieu, d'offrir des actions de grâce. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté demeure à toujours. Et on devait pouvoir voir la bonté de Dieu dans notre vie. Nous faisons des erreurs, mais quand on revient de nos erreurs, on peut voir la bonté de Dieu. Car l'Éternel est bon, sa bonté demeure à toujours, et sa fidélité subsiste d'âge en âge. Dieu est le Créateur, et Dieu est notre Créateur. J'ai voulu vous lire le verset 4 dans la version Ostewald et la version Martin. C'est un petit peu différent. Entrer dans ses portes avec des actions de grâce et dans ses pavés avec des louanges, célébrez-le, bénissez son nom. Nous sommes, on a dit cela plus d'une fois dans l'Église, nous sommes l'argile dans les mains de Dieu. Et ce n'est pas l'argile qui décide ce qui va devenir, c'est le potier qui décide. C'est Dieu qui est le maître potier. Dieu nous a choisis en ce moment pour être l'argile. Et c'est Dieu qui nous façonne. Et il nous façonne comme il entend. Mais à nous d'être reconnaissants pour le fait d'être de l'argile et que nous avons été choisis pour être l'argile par Dieu qui l'utilise en ce moment. À nous d'être reconnaissants aussi pour ce que Dieu fournit, pour ce que Dieu nous donne. Nous avons aussi l'exemple suprême du Christ, ce qu'il a dit quand il allait ressusciter Lazare, et c'est mentionné dans Jean chapitre 11. Jean chapitre 11 et le verset 41. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Il a dit ça à son Père. Si le Christ rend grâce à son Père, à nous de faire de même, de faire pareil. Et bien sûr, l'exemple classique peut-être dans ce domaine, ce sont les 10 lépreux. Il faut savoir qu'à l'époque de l'Ancien Testament et à l'époque du Christ aussi, les lépreux étaient considérés, sur un plan physique, comme impurs, et ils devaient crier impurs, impurs. Ils ne pouvaient pas habiter avec les autres, il fallait qu'ils habitent à part. Vous imaginez à quel point c'était difficile. Si vous étiez marié avec peut-être des enfants, que vous deveniez lépreux, il fallait vous isoler physiquement. Et vous ne pouviez pas rester avec la communauté d'Israël. Donc nous avons ici des lépreux, du reste le langage est intéressant, dans Luc chapitre 17, Luc chapitre 17, c'était très difficile pour les lépreux. Luc chapitre 17 et le verset 11. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à son rencontre, se tenant à distance. Évidemment, se tenant à distance, ils n'avaient pas le droit de se mélanger avec tout le monde pour que les autres n'attrapent pas la maladie. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à son rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, maître, aie pitié de nous. » Ils voulaient qu'il ait pitié d'eux parce que leur vie avait complètement changé. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » C'est ce qu'il fallait qu'un lépreux fasse quand il pensait qu'il était guéri. Il fallait qu'il se présente au sacrificateur. Il fallait que le sacrificateur l'examine pour voir s'il y avait encore la lèpre ou pas. « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et bien sûr, le Christ a dit cela avec la foi. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Vous imaginez le changement de vie pour ces gens. Ils pouvaient maintenant rejoindre leur famille. Ils pouvaient de nouveau être acceptés par la société. Ils n'étaient plus ostracisés, comme c'était le cas sur un plan physique. Mais vous remarquerez une chose ici, dans le récit biblique. Il n'est pas dit, c'est ce que nous allons voir, il n'est pas dit que les 9 n'étaient pas reconnaissants. La Bible ne dit pas ça. Certainement qu'ils étaient reconnaissants d'être guéris. On ne peut pas imaginer le contraire. On ne parle pas de ce qu'ils ont ressenti, peut-être. Mais on voit la suite qui est dramatique d'un côté. Verset 15. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Ils étaient certainement tous les 10 très reconnaissants qu'ils avaient été guéris. Ils avaient cela dans le cœur, mais il n'y avait qu'une personne qui est revenue vers le Christ. Glorifions Dieu à haute voix. Qu'est-ce qu'il fait? Verset 16. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Certainement que les 10 étaient reconnaissants, mais il n'y avait qu'un seul qui a exprimé sa reconnaissance et lui a rendu grâce. Verset 17. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que 7 étrangers pour revenir à donner gloire à Dieu? » On aurait pu imaginer que tout le monde reviendrait pour remercier Dieu. Ne s'est-il trouvé que 7 étrangers pour revenir à donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, « Lève-toi, va. » Ta foi t'a sauvé. Donc il a exprimé sa gratitude à l'égard du Christ, à l'égard de Dieu. Et ça, c'est très important pour nous. On peut avoir la gratitude dans le cœur, mais il faut aussi l'exprimer vis-à-vis de Dieu. Notre nature humaine ne va pas toujours exprimer cette reconnaissance. Mais nous voyons que David l'a fait. Il y a un passage intéressant dans Deutéronome chapitre 6 et le verset 12. Je suis sûr que vous demandez beaucoup de choses à Dieu, mais est-ce que nous pensons remercier Dieu quand Dieu exauce nos prières? C'est facile de demander à Dieu, et nous avons tous certainement beaucoup de choses que nous demandons, mais est-ce que nous exprimons la gratitude quand la chose arrive? Si Dieu nous exauce, si Dieu répond à nos prières. Deutéronome, chapitre 6, à la fin du verset 11, nous lisons ceci. Deutéronome, chapitre 6, et à la fin du verset 11. Lorsque tu mangeras et te rassasiras, garde-toi d'oublier l'Éternel, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il ne fallait pas qu'il soit ingrat, qu'il se rappelle de ce que Dieu a fait pour eux. Il y a un exemple que je trouve très impressionnant, et cela se passe autour du trône de Dieu. 2/3 des anges sont restés fidèles à Dieu. Il y a différents rangs d'anges, et nous trouvons dans la Bible, dans Apocalypse, 24 vieillards qui ont des trônes, qui ont des positions et qui sont devant le trône de Dieu. Ils sont mentionnés à plusieurs reprises dans l'Apocalypse. Ils sont mentionnés dans le chapitre 4. Ils sont mentionnés dans le chapitre 5. Et sont mentionnés dans le chapitre 11 et le chapitre 19. Chapitre 4, 5, 11 et 19. Nous allons revenir sur le chapitre 11, si vous le voulez, Apocalypse chapitre 11, parce qu'il s'agit ici d'un événement spectaculaire, d'un grand événement de la 7e trompette, le point culminant du plan de Dieu pour l'humanité, et les mesures que Dieu va prendre donc pour que le plan de Dieu pour l'humanité puisse être mené à bien. Apocalypse chapitre 11, donc, est le verset 15. Apocalypse chapitre 11, est le verset 15. Nous avons nos 24 vieillards mentionnés dans le verset 16, mais nous allons commencer avec le verset 15 pour situer le contexte. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Très grand événement, événement vraiment historique dans l'histoire de l'univers. Verset 16. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur le trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu en disant, à cet événement grandiose, verset 17, « Nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. » Ils étaient reconnaissants à l'égard de Dieu. Et pas uniquement étaient-ils reconnaissants, mais ils ont exprimé cette reconnaissance. Je regardais le loueur à propos de ce mot qui est utilisé, qui est traduit en français par « rendre grâce ». Ça peut être traduit par « être reconnaissant », « sentiment de reconnaissance » ou « rendre grâce », « remercier ». C'est ce qu'ils ont fait ici. Ils ont rendu grâce, ils ont remercié Dieu. Ils étaient tellement reconnaissants dans cette prophétie. Ils ont continué à parler à Dieu. Verset 18. Les nations se sont irritées et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Nous voyons maintenant, à notre époque, cet événement est tellement monumental qu'il va y avoir des événements qui vont l'accompagner. Verset 19. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple, et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. L'apôtre Paul a beaucoup souffert dans son ministère, mais ce qui est remarquable, vous pouvez regarder cela dans une concordance, ce qui est remarquable avec l'apôtre Paul, entre autres, c'est le nombre de fois qu'il parlait de Dieu dans ses épîtres et où il utilise l'expression « Je rends grâce à mon Dieu ». Vous trouvez cette phrase, avec parfois des petites différences, dans la plupart de ses épîtres, pas dans toutes les épîtres, mais dans plus de la moitié, soit cette phrase, ou soit une variante de cette phrase. Vous pouvez le voir dans une concordance, comme j'ai dit, il y a dans les écrits de Paul ce qu'on appelle les épîtres de la captivité. On appelle cela en anglais « the prison epistles », mais on appelle cela en français plutôt les épîtres de la captivité. Il y en a quatre. Ce sont les épîtres que Paul a écrites quand il était en prison. En réalité, c'était le premier emprisonnement, c'était plutôt une assignation à résidence. Il avait une certaine liberté, mais il était quand même surveillé, et ce n'a pas dû être facile. Mais ce que j'ai constaté, c'est le nombre de fois qu'on trouve cette phrase, ou l'équivalent de cette phrase, dans ses épîtres. Dans Éphésiens, vous le trouvez deux fois. Philippiens une fois, parce que les quatre épîtres, c'est Éphésiens, Philippiens, Colossiens et Philémon. Deux fois dans Éphésiens, une fois dans Philippiens, trois fois dans Colossiens et une fois dans Philémon, une épître très courte, où il a dit qu'il était reconnaissant à Dieu. C'est aussi l'apôtre Paul qui dit « Je porte cette chaîne ». Une situation donc difficile, pas uniquement le trouve-t-on dans les épîtres de la captivité, mais on le trouve dans Romains, dans 1 Corinthiens, dans 1 Thessaloniciens, dans 2 Timothée. C'est un thème qui revient dans la vie de Paul parce que Paul était reconnaissant à l'égard de Dieu. Philippiens chapitre 1 et le verset 3. Pas seulement il était reconnaissant, mais il exprimait cette gratitude à l'égard de Dieu. Philippiens chapitre 1 et le verset 3. Il y a de moins en moins de gens qui expriment la gratitude, même sur un plan humain. Et parfois de nos jours, quand vous exprimez une gratitude, les gens sont surpris parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre ce genre de choses. Philippiens chapitre 1 et le verset 3. Philippiens, chapitre 1, et le verset 3. Paul était reconnaissant. « Je rends grâce à mon Dieu. » Je rends grâce à mon Dieu de tous les souvenirs que je garde de vous. Il était assigné à résidence. Je rends grâce à mon Dieu de tous les souvenirs que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie. Il était tellement reconnaissant. Il continuait sans cesse à prier pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Verset 12. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Il était assigné à résidence, mais il était positif. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Il était comme nous venons de le voir, il était positif. Il a exprimé sa gratitude. Éphésiens chapitre 5 et le verset 20. Éphésiens chapitre 5 et le verset 20. Paul, qui n'avait pas la même liberté, qui n'avait pas la liberté qu'il connaissait pendant des années, dans cette situation difficile, il a dit, il a donné ses conseils aux frères dans l'Église, « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père. » C'est quelque chose qui est énorme. « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père. » La Bible parle même de regarder comme un sujet de joie complète nos épreuves. Je continue le verset 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous soumettez les uns aux autres dans la crainte de Christ. J'ai voulu terminer avec Philippiens chapitre 4 et le verset 6. Philippiens chapitre 4 et le verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Nous vivons à une époque où beaucoup de gens s'inquiètent et où il y a beaucoup de sujets d'inquiétude. Mais face à ces sujets d'inquiétude, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. C'est une question de foi en Dieu, de confiance en Dieu, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Il faut être réaliste aussi. Il faut confier des choses, nos situations difficiles à Dieu. Comment? Par des prières et des supplications avec des actions de grâce. C'est donc un ensemble. On fait des prières, on supplie Dieu parce que nous avons des problèmes peut-être, parce que nous avons des besoins, mais il faut que ce soit accompagné avec des actions de grâce. La gratitude fait partie de la recette, si je puis m'exprimer ainsi. C'est un ensemble. C'est une recette, une formule. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ensuite, le verset 7. Il y a un petit « et ». « Et ». C'est donc une promesse de la part de Dieu. Si nous prions de cette façon-là, avec la gratitude, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ensuite, nous avons les versets que nous connaissons bien. Verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, remercions Dieu. Ensuite, nous enchaînons avec une formule pour nos vies personnelles. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne du louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, y compris donc cette gratitude, pratiquez-le. Pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous.